Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur FM+, le canal 91 Montpellier 103.1 Nîmes, et c'est de visu le rendez-vous des arts contemporains, un bimensuel proposé par Lise Haute. Thème de l'émission de ce jour, l'art contemporain et la question de la banalité. Entretien avec David Bioulès et David Vol, actuellement exposé à la galerie Vasistas à Montpellier. Entretien aussi avec Romain Ventura pour son exposition à la galerie Montpellier-Rennes, Samira Cambi. Entretien enfin, et c'est par là que débute l'émission d'aujourd'hui, avec Jean-Paul Garino, directeur de la galerie Vasistas, à l'occasion des 20 ans de sa galerie.
Donc c'était l'époque où les lieux, on parlait de lieux. Voilà, on disait un tel s'occupe
un lieu d'art tel,
un lieu d'art contemporain. Moi, ça a été de s'appeler galerie. Et c'est incroyable ce que j'ai pu entendre tout de suite. Oui, il veut se faire de l'argent sur le dos des artistes. C'est fou. Ça prouvait à quel point il y avait une ignorance de la part des jeunes artistes. L'ignorance du marché de l'art, en fait, de ce qu'était l'art et de ce qu'était le monde de galerie. Et moi, c'était important de m'appeler comme en galerie, parce que je savais qu'il y aurait à faire un bilan à un moment ou à un autre. Parce que je savais que j'aurais droit aussi à ce genre de questions. Alors, est-ce que ça marche ? Question qu'on ne pose pas à quelqu'un qui s'occupe d'un lieu. Mmh. Ou alors, est-ce que ça marche ? Ça veut dire, est-ce qu'il y a du monde ? Donc ça, c'est, et ça m'a obligé, et c'était décidé, à faire un certain travail. C'est-à-dire qu'il faut aller vers les médias, il faut aller vers les collectionneurs. Donc, voilà.
Faire un travail de galeriste.
Et oui. C'est pas tant juste de dire je suis galeriste, mais c'est pour faire ce travail-là. Et puis, pour les jeunes gens qui seront exposés. Voilà, c'est dans ce but-là aussi.
Alors Vasistas, moi, c'est quand même, ce nom était quand même très singulier, parce que c'est le Vasistas, une petite lucarne, un côté modeste là-dedans, la galerie, ça affirme vraiment sa fonction, et Vasistas, ça l'affirme d'une façon modeste.
Alors il y a une private joke en fait. Je venais de sortir des Beaux-Arts. Et moi, vraiment, la chose que je travaillais, au sens le plus large qu'il soit, c'était les vanités. Et moi, quand j'ai choisi Vasistas, c'est parce que je ne pouvais pas m'appeler Vanitas. C'était trop lourdingue. Et justement, le Vasistas comme ça, qui paraît anodin, mais pour moi, c'était parler de Vanitas. Ça veut dire aussi un petit peu d'humour, enfin, en tous les cas... Oui, ne pas se priver de rire ou de sourire ou de s'amuser.
Maybelline. Oh Maybelline. Oh Maybelline.
Ne pas se priver de rire, sourire ou de s'amuser. L'injonction qui animait et anime encore Jean-Paul Garino à l'ouverture de la galerie Vasistas qu'il dirige n'était peut-être pas tout à fait celle de Chuck Berry dans Maybelline, quoique. En 1997, lors de l'ouverture de la galerie au 37 avenue Buisson-Bertrand à Montpellier, l'empereur du riff de guitare, le chanteur qui fait danser les mots, selon Louis Bertignac, rendant hommage à Chuck Berry disparu samedi, signait un concert mémorable à Moscou, tandis qu'à Vasistas, de son côté, on avançait encore à tâtons, on exposait Dominique Gauthier et Daniel Dezeuse, des artistes pas vraiment rock, quoique. Les temps changent et la nouvelle musique de l'art contemporain à Montpellier présente des accents de renouveau au risque de flirter avec l'Arlésienne de Georges Bizet.
Depuis que Vasistas existe, il est question qu'ouvre un centre d'art, ça a été un musée, ça a été... donc ça finit par se produire, donc c'est une bonne nouvelle. Mais je suis ravi. Ravi que ça se fasse, ravi encore plus que ce soit Nicolas Bourriaud qui s'occupe de tout ça. Mais j'ai jamais attendu après ça, sinon qu'est-ce que j'aurais fait pendant 20 ans ?
Alors justement sur cette question-là, comment dirais-je, y a des choses qui ont été loupées quand même. Je veux dire, à un moment donné, on aurait pu avoir un musée d'art contemporain avec la collection Lambert quand même.
Oui. Eh oui, il y a eu des loupés, il y a eu des ratages.
Ça, c'est un beau ratage, quand même.
Ah, ben oui, oui. Ben, bon, alors, ça dépend. C'est toujours le coup du verre à moitié vide ou à moitié peint. Bon, ben, il y aurait eu la collection Lambert, il n'y aurait pas Nicolas Bourriaud, il n'y aurait pas le Moco, du coup.
Montpellier n'a pas vu beaucoup d'art contemporain sur ces dernières années, à part d'aller dans les galeries.
Le public est plus ouvert que ça. Mais bon, en tous les cas, il n'y a aucune raison d'en vouloir à ce public-là qui lui aussi a vu que ce qu'on lui a montré.
Oui, oui. En fait, pendant longtemps, il fallait aller ailleurs pour se faire le regard. Et de toute façon, il faut toujours aller ailleurs.
Ben, bien sûr, et de plus en plus. C'est pour ça que tu me disais par rapport à il y a 20 ans, oui, ce qui a changé, c'est ça. C'est qu'on est beaucoup plus mobiles, tous, et les jeunes aussi. Tu vois, quand tu parlais de la situation des jeunes artistes ici. Donc, s'il se passe des choses de qualité, tant mieux. Et je l'espère, hein, je le souhaite, d'autant plus que c'est quand même le devoir des élus. Hein, de
tenir leurs promesses.
Bah, oui, oui, oui.
Et d'aller jusqu'au bout de leurs intentions.
Ah oui, oui, oui. Donc bon, ça semble sur la bonne voie, tant mieux, je l'espère. Mais sinon nous, au sens large, on se déplace et très facilement. Donc, il n'y a pas à nous amener forcément tout sur un plateau. Hein. She may contain the urge to run away, but hold her down with soggy clothes and breeze blocks. Cedrazine, your fever, scream me again. Never kisses, or do you ever send a full stop?
Do you know where the muffins go? Pas de doute, avec l'exposition de David Bioulès chez Vasistas jusqu'au 22 avril. Si, vivre, disait Georges Perec, c'est passer d'un espace à un autre en essayant le plus possible de ne pas se cogner. Peindre, c'est aussi passer d'un espace à un autre sans se cogner à ses souvenirs et ses influences familiales. Une exploration pas si simple quand on est le fils d'un peintre célèbre à Montpellier comme Vincent Bioulès, membre fondateur de Support Surface, mais qui peut avoir les charmes de la poésie de l'Oulipo. Aventure picturale en tout cas, qui débute à l'orée des années 2000 avec des paysages de Lozère et se poursuit dans l'exhumation de choses simples, des tentes de camping, des chaises et aujourd'hui à près de 50 ans avec des outils de bricolage sortis tout droit d'un imaginaire nourri au parti pris des choses, tel est David Bioulès.
C'est des bons souvenirs, c'est des choses qui m'ont fasciné. Alors si je suis très très personnel, non pas de ma famille où on faisait de la peinture, mais d'une autre partie de ma famille où on faisait du bricolage. Et j'ai eu finalement, avec le recul, une grande fascination pour ces gens de ma famille qui bricolaient, qui avaient des ateliers. Et il n'y en avait pas vraiment chez moi. Et donc il a fallu ça, que je le fasse moi-même. Alors que la peinture, c'était plus une histoire de faire dans ma maison où on fait de la peinture.
Ouais.
Alors les outils, j'en ai beaucoup. Je m'en sers beaucoup. Je les garde comme il y a des gens qui aiment leurs outils comme étant quelque chose de très personnel. Il y avait des gens qui prêtent leurs affaires, des gens qui ne les prêtent pas. Ça ne veut pas dire qu'ils sont égoïstes ou pas, mais... Il y a une attache très personnelle à l'outil parce que certains, on se souvient des choses qu'on a fait avec.
Ouais.
C'est des choses qu'on tient dans les mains, très physiques. Ce sont des choses que l'on garde, que l'on retrouve, qui servent. Et peut-être avec l'âge, avec la paresse de mal bricoler, c'est vrai qu'avoir des outils, beaucoup, et des outils qui servent à des choses précises et d'avoir surtout le bon outil pour faire les choses de mieux en mieux. C'est peut-être parce que je vieillis que je suis passé des outils un peu tocards, un peu bricolés, un peu exceptionnels, à des outils, le plaisir, à la fois le plaisir du neuf et à la fois le plaisir des vieux outils qui sont patinés. J'ai passé énormément de temps, et je continue à le faire, dans des magasins de bricolage. Et ces magasins de bricolage, on trouve des choses qu'on qualifierait d'affreuses, avec des matériaux incroyables, plastiques, des couleurs...
Criardes,
certaines formes de vulgarité, mais qui peut plaire. C'est là où j'ai été fasciné par... des gaines électriques, c'est là où j'ai été fasciné par des supports, des moquettes, Et il y a aussi la partie plus classique qui a tendance à être de moins en moins présente dans les magasins de bricolage. La partie classique, c'est les outils proprement dit. Et c'est à 90% de la décoration. Donc de la décoration toute faite. Donc ceux qui achètent encore les outils pour faire ou créer de toutes pièces, ça devient finalement un petit public par rapport... au chiffre d'affaires de ces...
Oui, c'est ça. Ce qui domine, c'est l'outil électrique.
L'outil électrique et puis le tout fait, le déjà conçu. J'avais déjà peint, par exemple, des petites plantes, des choses très humbles, en disant je vais tout simplement les observer un peu pour redémarrer une gymnastique du regard, une gymnastique du dessin. Et j'ai décidé d'en peindre un, d'en peindre deux, d'en peindre trois. Alors le problème, c'est que j'en ai beaucoup. Et donc il a fallu... j'ai commencé quelque chose qui était... tout d'un coup, qui est devenu beaucoup plus long que prévu. Et au lieu d'être un simple exercice ou promenade dans sa caisse à outils... Alors ils ont d'abord été peints à l'huile, à leur échelle. Ils sont tous à leur taille.
Et même les grands formats ?
Alors, pas les grands.
Ouais,
je parle d'abord, parce que j'ai commencé chronologiquement par les petits. Ils sont tous à leur taille. Et donc, le format de la petite toile correspond à ce que je peux faire rentrer comme outil, de manière très frontale. Assez vite, de manière assez empirique, est arrivé le fait qu'il y en avait certains qui étaient plus, alors on ne peut pas dire photogéniques, mais peinturogéniques. Que d'autres, et je me suis un peu posé les questions, pourquoi ? Est-ce que c'est la couleur ? Est-ce que c'est le rapport à l'image ? Est-ce que c'est le rapport à la frontalité ? Est-ce que c'est le rapport à leur élégance, à leur asymétrie ? Et ça, c'est une question importante pour après. Et à leur curiosité. Puis ensuite, je suis passé à les outils. Il y en a certains qui sont de plusieurs tailles. On a un petit marteau, un gros marteau, on a des grandes pinces, des petites pinces, donc il y a eu des... Pourquoi un même outil qui sert exactement à la même chose est-il différent ? Et finalement, ça devenait plutôt de l'ordre du portrait. En disant, après tout, qu'est-ce qui fait la caractéristique ? Qu'est-ce qui fait la silhouette ? Qu'est-ce qui fait que celui-là est reconnaissable ? Et un petit peu comme les personnes, on peut reconnaître quelqu'un de loin à sa silhouette, à sa manière de se tenir, à sa manière d'être déposé. Ben, un peu pareil, finalement, si petit à petit, ces outils devenaient des jouets, peut-être, des personnages, une fiction qui revenait de quelque part. Ce gros travail, parce qu'il y a eu énormément de dessins, énormément de peintures, a conduit à essayer de les faire sur beaucoup plus grandes. Donc c'est les grands outils que l'on voit, c'est des panneaux qui font 120 sur 80, donc il y a un peu un format classique pour moi, un peu plus que le grand aigle. Et le bois, eh ben, était celui, voilà, toujours pareil, des matériaux des magasins de bricolage, le contreplaqué de l'atelier, le contreplaqué des ateliers de menuiserie, si vous voulez, avec ce côté très simple, très brut, mais qui lui aussi a une histoire, parce que les bois industriels, y en a de plus en plus de variétés, etc. Donc j'avais déjà travaillé avec du bois, et... peindre des outils sur du bois, et ben c'est un petit peu mes outils. Il y en a certains qui sont cloués ou posés ou accrochés sur des planches de bois. Et il y avait ce petit jeu de dire, voilà, finalement, quand ils sont pas là, c'est leur emplacement. Quand ils sont là, ils ont une présence. Ils sont peints mais pas accrochés, mais en même temps, la planche est elle-même accrochée. Un petit jeu comme ça de portrait. Et les monumentaliser, parce que même s'ils sont pas très grands en format, ça leur donnait une silhouette et ça s'est assez rapidement focalisé sur un type de pince, qui est une pince multiprise, qui a un grand avantage, c'est qu'elle est asymétrique. Et que si on la regarde bien, c'est toujours très intéressant à dessiner. parce qu'on a une silhouette à respecter, parce qu'on a des élégances, des choses plus fines, des choses plus grossières, des choses plus usées si l'outil
a été utilisé,
les marques du temps. On a aussi les styles, parce qu'il y a des designers qui recyclent, qui revendent la pince qu'on a déjà, qui est garantie à vie, dont on n'a absolument pas besoin, mais qui donne envie de l'acheter.
La plupart du temps, les gens qui aiment les outils sont aussi des bricoleurs du dimanche. Et donc, ils installent un petit coin dans leur garage quand ils n'ont pas la possibilité d'avoir un véritable atelier. Et en général, ils utilisent donc un contreplaqué sur lequel ils installent des moyens de les accrocher. Et lorsqu'ils les utilisent, donc ils les enlèvent de ce panneau et on voit qu'ils ont dessiné la silhouette de manière à pouvoir la remettre exactement au même endroit. Donc on n'est pas seulement dans cette approche de modeste et en même temps qui vise à magnifier l'objet dans ce que tu représentes, mais on est aussi dans tout cet environnement poétique du rapport à cet objet qui engage finalement un rapport au dessin qui est voulu par le fait qu'on ne souhaite pas le perdre. Il y a ça aussi, c'est quand même des objets, ceux qui sont représentés là, qui sont des objets qu'on souhaite ne pas perdre.
Tout à fait. Je pense que quelqu'un qui aime, après c'est les outils, ça pourrait être autre chose, tient à ce qu'il possède, les range. Enfin, il y a un côté, est-ce que je range bien, est-ce que je range pas bien, un côté très intime, et on pourrait regarder le caractère des gens là-dessus. J'étais même allé à imaginer, puisqu'on met dans son salon, on met ses livres, on met des tableaux, on met des photos, on met des beaux objets. Et quand on tient à des choses qui ne sont pas montrables, est-ce que finalement on ne préférerait pas avoir ses outils dans son salon et ses livres dans son garage
Ou en tout cas côte à côte.
Ou tenter le côte à côte.
Je pensais aussi à cette question finalement que les grands formats, j'en viens à eux plutôt, plus spécifiquement, engagent, c'est que on ne peut pas s'empêcher évidemment quand on voit n'importe quel objet agrandi à la dimension d'un tableau qui est celui où on peut représenter des personnes, on ne peut pas s'empêcher de faire une projection anthropomorphique. Donc en fait, ce sont aussi des représentations qui parlent de l'humain, les grands tableaux, les grands formats.
Je les ai dessinés comme des outils et à la fin, je pensais à des êtres, à des individus.
Ouais.
Humains ou pas humains, mais peut-être des personnes qui avaient une vie, même dans leur présence immobile. Après, il y a des petits clins d'œil, quand les pinces sont ouvertes, c'est vrai que ça évoque quelqu'un qui parle, ou qui rit, ou qui sourit, ou qui fait la tête si la pince est fermée. Dans la multiplicité, on peut trouver aussi ça, mais c'était pas à l'avance que j'ai eu envie de les peindre ouvertes ou fermées. C'est une intuition d'abord, et puis finalement, on se rend compte de cette vie. Voilà.
Alors, ce sont des personnages, si on continue par là, ce sont des personnages qui n'ont pas de bras. Ça, c'est très curieux. Si ce sont des personnages, la chose qu'ils n'ont pas, ce sont des bras.
Voilà,
ils ont une tête, ils ont des jambes, ils n'ont pas de bras.
Une bouche, des pattes, mais ils n'ont pas de bras.
Et ce sont des sortes de, comme de hérons. Ils ont des fonctions, je dirais, qui sont très liées à des attitudes, à des comportements, à des nécessités très concrètes, très quotidiennes, banales et en même temps qui sont vitales, quoi.
Le mot banal, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Oui, il était peut-être parmi les outils, celui qui était tellement dénué de sophistication que c'était vraiment un pur dessin. Et c'était, est-ce qu'une chose aussi simple peut devenir, si on en fait le dessin, est-ce que ce dessin a la force, un beau dessin, ou est-ce qu'il est chétif, transparent, maigre? Et j'en ai fait des petites, donc comme ce tableau qui est dans cette exposition. J'ai aussi dessiné des vrilles plus grandes, et elles ont de la présence.
C'est beaucoup à De Zeus quand même, en regardant tout ça. Hein. De Zeus, c'est celui qui a autorisé, avoir été membre d'un courant qui faisait un peu table rase, le seul à autoriser la possibilité de fabriquer des objets pour faire quelque chose, quand même.
Il fait partie des univers de ma galaxie.
Être dans une galaxie, banalement ailleurs, dans quelque univers plus kitsch que bizarre. Les univers du peintre David Vol, l'autre David exposé aux côtés de David Bulès à la galerie Vasistas, sont carrément invraisemblables. Moins figuratif qu'abstrait, moins géométrique gagné par une tendance que l'on dirait empruntée aux sculptures molles de César, les tableaux de David Vol mettent en scène sur des fonds suaves et pastels, des figures informes, sortes de pièces montées en train de fondre, une bizarrerie que l'on verrait bien sur les étals d'un pâtissier après une coupure de courant. Le peintre, tout comme David Bulès, qui est un artiste dont la galerie suit le travail depuis le début des années 2000, a décidé de sortir du cadre et de passer à la sculpture. On l'écoute tout de suite.
C'est assez marrant, c'est au début de l'année dernière. J'ai commencé les sculptures en me disant « bon, j'en ai pour 15 jours et puis je vais arrêter ». Et puis ça a continué sur quelques mois, sur 2-3 mois. C'est-à-dire une sorte de... J'ai vraiment conçu ce travail comme des vacances. En fait, j'étais en vacances de la représentation. J'ai bricolé ces sculptures. C'était de tout autre geste, toute autre manière de penser. Et il n'y avait pas le tableau après. Donc j'ai vraiment vu ça comme une immense liberté. C'était vraiment une sorte de dérive. C'est-à-dire que ce sont des objets en mousse polyuréthane, papier mâché... je reviendrai peut-être sur les matériaux.
Mais il y a aussi des espèces
froissé.
De cheveux, enfin, ou de
voilà,
crinières.
Voilà, des cheveux. Ouais. Et c'est quelque chose qui s'est fait par sédimentation. C'est-à-dire que j'ai commencé un objet, de temps en temps, à un moment donné, il devenait tellement évident. J'ai fait le même travail qu'avec la peinture. Finalement, quand le sens devenait trop présent, je coupe la sculpture en deux, je la scie, je regreffe dessus un autre objet. Les choses se font comme ça par accumulation, dérive, agglomération. Jusqu'à arriver à un objet qui est insignifiant, enfin en tout cas n'a pas de sens trop, n'a pas de sens déterminé, ce sont des sculptures abstraites. Mm-hmm. Donc je pense que la logique, enfin l'analogie entre les deux serait là, dans cette sorte de dérive, pour arriver à un objet qui me surprend en premier en fait, avant
qui nous sorte, oui, d'émanation fantastique, quoi. Du fantastique.
Oui.
On est quand même de ce côté-là.
Oui, du côté du fantastique, même du littéraire, de l'évocation. J'ai pas mal pensé à des écrivains du 19e, comme Jean Lorrain, par exemple, où on décrit un cabinet de curiosité avec des objets, un peu des fétiches, des choses comme ça. J'ai pensé à ça, comme des objets anciens, en fait. Mm-hmm. Je les ai conçus, même avant de les concevoir comme des sculptures, je les ai conçus comme des statues. C'est-à-dire qu'elles ont leur propre socle intégré. Elles n'ont pas besoin de socle, d'ailleurs, elles sont posées au sol. Et c'est de la statuaire, en fait, avant d'aller à la sculpture. Il y a un petit côté un peu archaïque, je pense.
Mm-hmm. Oui, on passe à des objets. Petits totems.
Voilà, des petits totems, des petits hôtels, des petites choses comme ça.
Oui, en plus, il y en a certains dont la configuration rappelle vraiment, par exemple, des ex-voto. Mm-hmm. Hein, ouais. Il y en a une qui comprend une sorte de grotte,
oui.
Hein, avec des personnages, enfin quelque chose qu'on assimile, oui, à des personnages, oui, bien que ça ne soit pas ça l'idée, hein, mais qui ont un rapport avec les ex-voto.
Oui, c'est, oui, il y a des cavités, il y a des espaces. Longtemps, d'ailleurs, les espaces dans les sculptures sont restés vides. J'avais vraiment pensé à la notion de lieu. La sculpture comme une sorte de petit concentré de lieu autonome.
Un génie du lieu.
Une sorte de génie du lieu, quelque chose comme ça.
Oui.
Et à un moment donné, ils sont remplis avec, la plupart du temps, un objet en plâtre, des dégoulinures de plâtre recouvertes d'argent, de la feuille, enfin, feuille d'argent. Et voilà, donc du coup, c'est vrai. Et puis il y a également, il y en a un avec des petites incrustations d'images dedans, des choses, des camées. Enfin voilà, une sorte de... quelque chose de...
d'objet de dévotion.
L'objet de dévotion.
Mmh.
En fait, je ne me sens pas sculpteur, c'est-à-dire que je résonne en peintre, en fait, depuis des années. Donc, quand j'ai attaqué ces sculptures, je n'ai pas d'enjeu en sculpture. L'histoire de la sculpture, je ne m'y suis pas plus intéressé qu'auparavant. Et du coup, j'ai fait ces sculptures vraiment de manière très libre, sans penser à quelque référence que ce soit. Donc, du coup, les éléments de sculpture sont apparus. Je dirais, à la limite, si ça fait penser à d'autres sculptures, c'est de manière naturelle. De par l'analogie, c'est un objet qui doit tenir debout, qui s'élève, etc.
Oui, oui, comme les enfants, ça veut faire des petites sculptures en bord de rivière avec des cailloux voilà, et des bouts de bois trouvés. Oui, on sent que c'est ça, oui.
Donc voilà, il y a un côté, je ne me suis pas du tout posé des questions du sculpteur, juste amusé avec les matériaux.
Mais il y en a quand même que vous fabriquez exprès, hein. C'est pas que des objets trouvés. Hein.
Ah, aucun objet trouvé.
Voilà, mais il faut le préciser. Oui, hein. Donc tout est fabriqué quand même.
Oui, oui, c'est un plaisir du bricolage, les pompons, le papier mâché, les petits trucs en pâte fimo, etc. Tout ça est fabriqué, c'est quelque chose... oui, il n'y a aucun objet trouvé dans tout ça.
Le pompon, vous y avez pensé pour quelle raison ?
La douceur, je crois. Vous parliez de la sculpture avec ses gâteaux, c'est...
De la peinture qui évoquait des gâteaux, oui, des pâtisseries.
Et du coup, j'avais envie...
Des pâtisseries assez kitsch, il faut dire.
Oui,
hein,
mais du coup, il y a une sorte d'aspect moelleux, doux, etc. Et le pompon, j'ai peut-être besoin de cet aspect aussi tactile. Cette opposition également entre l'aspect métallique de certaines surfaces et puis ce pompon qui est un objet foncièrement positif et enfantin et agréable. Mmh. Et voilà.
Je trouve qu'il y en a qui sont plus féminines que d'autres. Mmh. Hein, il y en a qui ont des... Enfin, si tant est, c'est toujours des projections, tout ça. Hein. Ouais. Mais enfin, disons qu'il y en a qui sont plus féminines à cause de ces pompons.
Oui.
Et puis, il y en a d'autres qui sont un peu plus masculines parce qu'elles sont un petit peu plus... Je dirais, il n'y a pas de cavité, elles relèvent plus de la stabilité, voilà, de la stabilité de la forme verticale.
Oui, il y a un rapport féminin-masculin, d'ailleurs les couleurs finalement, hormis le blanc, l'argenté, de plomb, c'est le bleu et le rose, donc c'est deux couleurs emblématiques,
oui, qui ont
filles,
des signifiants. Oui, qui sont des signifiants.
Effectivement, il y a, pour moi, ceux qui sont recouverts de graphite, ce noir très, très brillant, sont masculines. La petite sculpture qui s'appelle la petite ballerina, d'ailleurs, est très féminine, sorte de petites choses, comme ça. Voilà, je crois que dans ma peinture aussi, il y a ces deux éléments qui se posent ou se confrontent.
Se parlent ou se dialoguent. Dialogue beaucoup, en fait,
oui,
finalement.
Oui,
hein. C'est ce qu'on voit dans la peinture. Hein. Bon, elles ont des titres, hein, toutes ces pièces. Il y a la fonte, la troupe, la vague, la petite victoire, Pretty Ballerina, la promenade. Ce sont des titres que vous décidez après avoir terminé.
Oui, ils s'imposent... de manière très simple, hormis peut-être Pretty Ballerina qui est issu d'un morceau des années 60 du groupe Banks. J'entends ça, pof, je fais la sculpture, toc, c'est elle a trouvé son tout seul. Les autres s'imposent comme ça, de manière presque comme une bulle qui monte, puis pof.
Alors c'est quand même pas des titres tout à fait anodins, parce que plusieurs d'entre eux ont des références à la nature. Hein.
Mm-hmm.
La promenade, la petite victoire, on peut pas s'empêcher de penser à la Sainte-Victoire quand on est ici. Hein.
Mm-hmm.
Donc tout de suite, ahí, on voit le paysage, la promenade, la petite victoire, la vague... la troupe aussi, on voit bien la troupe dans la campagne. Enfin, quand on regarde les titres, on voit tout un imaginaire qui semble être ce qui vous habite aussi, puisque les titres sont donnés après.
Oui.
Ils n'accompagnent pas forcément l'élaboration de l'objet et de la sculpture.
Oui, ça pourrait être des titres des titres littéraires, enfin pour des romans ou ça. Oui, je les verrais bien comme ça, c'est-à-dire suffisamment universel, la vague, etc. pour faire référence à quelque chose de grandiose, toujours pour parler de la vague. Et puis, pour moi, il y a vraiment un lien. La vague, évidemment, c'est par rapport à Camille Claudel également, cette sculpture.
Cette forme,
la vague.
Oui.
Et puis, il y a ce côté aussi qui tombe un peu à plat, évidemment, entre l'aspect un peu romantique de la vague et puis la sculpture elle-même, qui est finalement une sorte de tas, de plots, qui n'est pas si lyrique que ça. Quoi.
Quand on les regarde, on ne voit pas une troupe, on ne voit pas une vague, on ne voit pas absolument pas ça.
Oui,
hein,
oui.
Et donc, comme c'est complètement, je dirais, délirant, hein, mais au sens du délire de Rimbaud, par exemple, de la poésie et du délire. Hein. C'est tellement délirant ce que vous proposez qu'il faut faire entendre que dans, en vous, ça représente des choses qui, elles, existent.
Oui,
la vague
oui.
existe, la troupe existe. Vous voyez ? Et c'est comme une manière de se familiariser mm-hmm. avec ces objets qui sont pas, qui ont une folie complètement dans leur forme, dans les coloris qui sont adoptés, et en même temps, vous en faites des choses qui sont très familières pour vous, très intimes.
Oui, oui, ça fait, oui, d'une certaine manière, ce lien via le langage, le titre permet une sorte de passage, finalement.
Moi, ce qui m'amuse aussi, c'est que en fait, elles ont la dimension, à peu près, elles sont presque de dimension identique en ce qui concerne mmh. la hauteur. Hein. Il y a peu de différence de l'une à l'autre.
Ouais. Hein.
Et on pourrait imaginer, puisqu'il y en a plusieurs qui sont installées dans l'espace, elles sont disposées d'une certaine façon, on pourrait imaginer quand même les pièces d'un jeu d'échecs. Hein.
Alors ça, j'avoue...
Par leur hauteur, un jeu d'échecs géant, on a les éléments de l'échiquier, les pièces de l'échiquier sont de cette hauteur aussi.
Alors,
surtout qu'il y en a une, il y en a deux qui ont du crin, ou enfin quelque chose qui rappelle le crin du cheval, mmh. et je me dis, bon, mais ça pourrait être le cavalier.
D'accord.
Voilà, et les formes avec les pompons, ça pourrait être la reine.
Mmh.
Et après, ça y est, c'est venu, après, okay. il pourrait y avoir les pions, mmh. et ainsi de suite. Et donc, je me suis dit, quand même, ça joue... aussi au niveau du regard, j'entends bien, mmh. et de la projection, avec ça.
Alors ça, j'avoue que je n'y ai pas pensé, parce que là, dans le lieu d'exposition, effectivement, elles sont disséminées dans l'espace, on peut y penser. Moi, je les ai vraiment conçues comme objets uniques. Je vous parlais tout à l'heure de fétiches. Je les vois vraiment comme objets, vous parliez d'objets de dévotion. Je pense qu'ils ont la dimension d'une sculpture... j'allais dire domestique.
Ou oui, sculpture. Oui, des foyers, la sculpture des foyers,
voilà,
oui, le dieu du foyer. Oui.
De... Donc je le voyais plutôt comme ça, et voilà, une sorte de format appropriable. Si
mais en même temps, vous manger. Savez que les pièces de l'échiquier font l'objet de dévotions quand même.
Mmh.
Donc oui, je trouve qu'on ne peut pas s'empêcher d'y penser aussi, puisque tout à l'heure on parlait donc de chaussures, du signifiant et tout ça, mmh. et il peut y avoir aussi ce jeu-là, quoi. Ça peut être aussi les pièces d'un échiquier poétique. Hein.
Alors voilà, je
c'est
pense
pas
que
un échiquier, je dirais, cérébral avec de la stratégie. Mmh. Hein. C'est plutôt l'échiquier de la poésie.
Alors je crois que c'est un jeu où finalement, dans cette expo, les pièces restent à la même place et les mouvements se font. Il y a des liens, je pense, qui se
bien
créent
sûr,
entre
forcément.
Les une, deux ou trois sculptures environnantes. Donc je crois que le jeu se fait ça, et comme ça, de manière effectivement poétique.
La déambulation est le même autour des pièces.
Ouais,
là, c'est drôle, ça.
C'est une promenade, finalement.
Sangbai gera kova atera likambai sangbai abe atera likambai.
Peindre des véhicules de chantier pris au hasard des travaux effectués dans la ville, peindre des ouvriers au travail, c'est cette banalité que le jeune artiste Romain Ventura, exposé à la galerie Samira Combi à Montpellier jusqu'au 10 avril, a voulu mettre au jour. Les considérer comme de véritables sujets de peinture, à la manière dont le faisait Jean-François Millet en peignant des glaneuses, des meules de foin et des travaux aux champs dans les années 1850. Moins attiré par la peinture de plein air, style revendiqué par l'école de Barbizon à laquelle appartenait Millet, Romain Ventura fait preuve d'une attention au dessin de la ville et à ses habitants, qui se rapproche davantage de l'art urbain ou du street art que du grand style de certains peintres figuratifs contemporains. C'est dire à quel point son art tient du graphe et de l'hyperréalisme, raison pour laquelle on l'inviterait bien à regarder du côté du pop art américain et d'Alex Katz en particulier pour se déterminer. On l'écoute tout de suite.
C'est quand même là où on vit qu'on, qu'on regarde. Quoi.
Ouais,
donc
ouais.
Du coup, c'est autour de moi. Mais après, enfin, je dis pas ça, c'est bien que ce soit pour Montpellier et tout, mais ça pourrait être un peu partout. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui existe partout dans le monde, c'est juste qu'il faut un peu s'y arrêter. Ce qui m'intéresse le plus dans ce sujet, c'est quand même d'arriver, par exemple là il y a une bâche, une bâche autour de... C'est quoi ça? C'était le grand, un grand hôtel, non?
Oui, qui se trouve en face de la gare.
Voilà, il y a une bâche sur ce grand hôtel qui n'y est plus, là. À l'heure de l'exposition, cette bâche, c'est fini, quoi. Donc, c'était vraiment un instant qui peut être capté comme ça par la peinture à un moment. Alors, pourquoi la peinture? Parce qu'on y prend du temps, quoi. On prend du temps à l'analyse, on prend du temps à recréer des choses qui ne sont pas forcément... On ne voit pas visiblement que les travaux peuvent avoir une qualité intrinsèque. Et quand on travaille voilà. Sur la pelle mécanique, les lumières sur un bout de métal, sur des chantiers boueux, la pluie, c'est vraiment quelque chose où on trouve
la matière.
De la matière, exactement.
De la matière, c'est ce que je vois. Vous êtes assez fasciné justement par les véhicules. D'un côté.
Ah, ça, c'est le côté Playmobil de mon enfance, ou les Lego. Ouais. Ça, c'est complètement ça.
Et ouais. Donc, vous en avez fait des objets de peinture. Hein? Parce que je veux dire que c'est assez rare d'imaginer que l'on prenne des véhicules pour faire des travaux comme sujet de peinture.
Oui, bien sûr. Bien sûr
mais... Donc, vous en avez fait des sujets de peinture.
Bien sûr, mais ils sont picturaux. Là, on en a deux en face de nous. Ils sont picturaux. Il y a des couleurs. Alors, en plus, les véhicules de chantier sont ultra colorés. Il y a une couleur qui ressort, qui peut être adaptée au décor. Il y a quelque chose de pictural dedans. Oui, on n'imagine pas forcément que c'est vers là qu'on va se tourner.
C'est un des aspects parce que vous êtes aussi très intéressé par les ouvriers. Hein, je démarre d'abord par des petites choses comme ça, qu'on découvre petit à petit. Donc ce sont plutôt des dessins d'ailleurs à ce moment-là que des peintures.
Ouais.
Hein. Ouais. Vous les réalisez de quelle façon? Enfin, je veux dire, c'est avec quel matériau que vous les réalisez?
Alors c'est à l'aquarelle. Ouais. C'est à l'aquarelle. On voit que, alors dans les pages blanches, on voit qu'ils sont totalement mis en... Comment dire? Mis en...
En évidence.
En évidence, puisqu'il n'y a rien autour en fait. C'est comme s'ils étaient détachés du décor. En fait, j'ai pris vers la fin, j'ai voulu prendre les ouvriers qu'il y avait dans mes toiles et j'ai voulu les séparer complètement du décor autour, avec que quelques éléments qui puissent rappeler ce qu'ils sont en train de faire. Et donc, travailler sur par aquarelle sur le détail de ces costumes de ville. Pareil, hein, les costumes fluo de chantier, je ne pense pas que c'est un truc automatiquement, on se dit, c'est beau, quoi. Enfin, je veux dire, voilà, c'est toujours l'idée de rajouter une qualité à quelque chose qui n'en a pas forcément. Après, il y a des trucs, vous voyez là, ceux-là, ils sont en train de faire du béton avec des râteaux et leur reflet se reflète dans le béton. Et comme le décor n'est pas vraiment mis, il y a des gens qui pensaient que c'était des gens, comment on appelle ça, mince, à la mer, là, les salines.
Qui sont sur des salines.
Mais pas du tout, non, ils sont en train de faire du béton, d'aplanir.
De faire une dalle.
Voilà.
C'est
intéressant, on voit des trucs que ça pourrait être des attitudes de travailleurs comme Millet les faisait avec les paysans, quoi. Le fait est que l'école qui m'a le plus formé en dessin pur, c'est l'école de 3D que j'avais fait à Montpellier, c'était l'ESMA. Et j'avais commencé cette école que...
L'ESMA, qu'est-ce que c'est, ça veut dire?
L'ESMA, École Supérieure des Métiers d'Art.
Voilà.
C'est une école privée, là, pour le coup. Et donc, j'étais parti pour un cycle de faire du cinéma d'animation 3D. J'ai appris beaucoup sur le mouvement aussi, maintenant, les gens que je fais... parce que les gens m'intéressent beaucoup aussi. Les gens que je fais dans la rue, le mouvement, j'ai appris beaucoup sur plein de choses de ce côté-là. Mais c'était pas mon truc. D'ailleurs, je peins aujourd'hui à partir de l'ordinateur, mais je ne fais rien par ordinateur. C'était pas mon truc, j'avais besoin d'un rapport à la matière, même ça pourrait être la sculpture ou quelque chose, mais quelque chose qui se construise, qui fasse qu'on a
qu'on a ce temps aussi dont vous avez déjà vanté la nécessité de manière, voilà,
tout à fait, tout à fait,
y introduire beaucoup des éléments de vous-même, quoi.
Bien sûr, oui, c'est ça, sculpter la réalité, quoi. Enfin, mais il faut du temps, de la matière aussi, il faut mais sculpter du réel, quoi. Dans le numérique, quand on fait les choses en numérique, évidemment qu'on fait quelque chose, c'est un énorme travail, là tous mes potes de 3D vous le diront, mais c'est pas pareil. Il y avait, voilà, quoi, moi quand j'ai découvert après la peinture, j'étais parti vers la bande dessinée au départ, et quand j'ai découvert après la peinture... Là, j'ai senti l'essence de térébenthine, les huiles, je me suis dit, c'est mon élément, là. Il y a quelque chose à faire.
Ce sont des peintures à l'huile.
C'est des peintures à l'huile.
La peinture à l'huile, c'est la peinture de la noble peinture. Hein.
Ma façon d'utiliser l'huile n'est pas du tout noble. Hein. J'ai des amis qui... je n'ai aucune technique au départ. Pour tout ce qui est peinture, je suis autodidacte total. Donc... Je fais mes petits arrangements.
Et voilà, De Visu, c'est fini pour aujourd'hui. Le rendez-vous des arts contemporains, le bimensuel proposé par Lise Hoth, était accompagné à la technique par Manu Lullier. Je rappelle que vous pouvez toujours podcaster l'émission ou la réécouter sur notre site Radio FM Plus, plus en toutes lettres, .org, à la rubrique Émissions Culture, Art, Théâtre, Fiction, page De Visu. Vous pouvez aussi consulter De Visu le Mag, revue culturelle et critique sur notre site concernant l'actualité des expositions en cours. À signaler enfin sur vos tablettes au centre chorégraphique Les Ursulines, boulevard Louis Blanc, l'espace d'exposition La Chambre d'écho du centre expose le chorégraphe artiste associé Vincent Dupont pour une exposition intitulée « Sillement » qui propose des films et des photographies réalisées par l'artiste en collaboration avec Vincent Bosque. L'exposition est visible jusqu'au 14 avril, mercredi et jeudi de 14h à 18h et vendredi de 14h à 17h. Au revoir à toutes et à tous et restez bien sûr à l'écoute de FM+, nos programmes continuent.